Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvesan, journaliste à l'agence de presse spécialisée AEF Info, qui coproduit ce podcast en partenariat avec la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Aujourd'hui, Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, et moi-même avons le plaisir de recevoir le directeur général de l'ESSEC, Vincenzo Vinzi. Bonjour messieurs.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Vincenzo, vous allez avoir du mal à cacher longtemps ce petit accent qui est le vôtre.
Je ne souhaite pas du tout le cacher.
Même si vous vivez en France depuis, je crois, déjà une vingtaine d'années. Alors, on va commencer ce podcast en Italie, pour que vous nous racontiez un peu ce moment de rupture dans votre carrière, qui a consisté au début des années 2000 à renoncer à un poste de professeur d'université à l'université de Naples, je crois, pour venir enseigner les statistiques à HEC et à l'ESSEC. Que s'est-il donc passé dans votre vie à ce moment-là et pourquoi avoir fait ce choix?
Ah, c'est exact, vous êtes très bien renseigné. Justement, j'étais professeur des universités en statistique à l'université de Naples Federico II, qui l'année dernière a fêté ses 800 ans. Et entre 2000 et 2007, je venais 4 mois chaque année ici en France comme prof visitant dans les très belles écoles de management pour écrire aussi des papiers de recherche avec mes co-auteurs. Et ensuite, en 2007, j'ai pris la décision justement de quitter mon pays, quitter le poste de professeur d'université pour devenir professeur de statistique à l'ESSEC. Qu'est-ce que m'a attiré vers l'ESSEC? C'était vraiment, je suis un académique, donc enseignement, recherche, accompagnement des entreprises, des organisations. Mais en même temps, j'avais un esprit très entrepreneurial en tant qu'académique et je voyais le système globalement des business schools en France comme un système très innovant, très dynamique, d'excellence, excellence pédagogique, excellence de recherche, très international, très ouvert et donc, et de manière spécifique, l'ESSEC, où les statistiques comptent. C'est une école où les matières quantitatives comptent beaucoup, on pourrait y revenir, et avec cet esprit pionnier et cet humanisme de l'école qui me semblait coller bien à mes valeurs, à mon profil, à ma personnalité, et l'histoire m'a donné raison.
Est-ce que les business schools italiennes sont si différentes que ça des business schools françaises?
Tout d'abord, je dirais qu'en Italie, il n'y a pas un système de business school, d'école de management comme en France. Il y a quelques écoles d'excellence, on pense à Bocconiani à Milan, on pense à la Louis à Rome et d'autres qui commencent à être connus, même au sein des universités. Mais la grosse différence, c'est que d'abord, ce sont des écoles qui sont arrivées un peu plus tard dans le système que les écoles françaises et il n'y a pas de classe préparatoire en Italie. Ce qui fait, à mon avis, une grosse différence, ce système d'excellence, de formation des jeunes. Parce que je crois que malgré les moyens financiers assez limités de ces écoles, elles ont pu, c'est mon analyse, s'affirmer au niveau international et porter la marque France à l'international pour quelques raisons, plusieurs raisons, mais il y en a deux en particulier, à mon avis, c'est la qualité du sourcing des étudiants, justement, qui viennent des classes préparatoires, et maintenant aussi dans d'autres domaines, mais on en parlera, mais également de l'agilité de gouvernance, qui ont ces écoles différemment, par exemple, en Italie, des universités.
Mmh. La place des CCI, par exemple, vous voulez dire? Les chambres de commerce?
La place des CCI qui reste dans beaucoup d'écoles, mais en général, indépendamment de quelles sont les parties prenantes d'une école, c'est l'agilité de gouvernance, la capacité de réagir à des tendances rapidement, des prises de décision qui sont faites rapidement. Souvent, je parle de l'ESSEC aussi, pas seulement dans l'adaptation à ce qui se passe dans le contexte sociétal, mais aussi dans l'anticipation, dans la capacité pour l'ESSEC d'avoir cet esprit pionnier, donc d'être capable de faire des pas de côté en anticipation des tendances de marché. Et donc tout cela fait partie d'un esprit, je dirais, entrepreneurial qui m'a attiré beaucoup.
Qui vous a plu. Mais dites-moi, vous avez dû être vexé alors que la Bocconi choisisse HEC pour lancer son bachelor l'année dernière?
Bon, je crois que dans le marché international, il y a la place pour tout le monde. Avec Bocconi, on fait de très belles choses aussi. On a un double diplôme pour la grande école, justement, qui est assez unique au monde parce qu'on a un campus à Singapour. Bocconi a une implantation en Inde. Donc nous avons un double diplôme, Milan, Paris, Inde à Bombay et Singapour, qui est assez unique, des collaborations en formation continue, donc voilà.
Vous n'êtes pas en reste.
Voilà, on n'est pas en reste du tout.
Bon, vous avez présenté début octobre le nouveau plan de développement de l'ESSEC à 2030. Sans entrer trop dans les détails, qu'est-ce qui en constitue la colonne vertébrale. Si vous deviez nous expliquer en quelques mots vers quoi l'ESSEC se projette dans les 5 années à venir, vous diriez quoi ?
Alors, en quelques mots, d'abord, tout plan stratégique s'inscrit dans un contexte, c'est très important, en quelques mots de le contexte. Nos écosystèmes évoluent rapidement. Les questions géopolitiques, les questions de réindustrialisation, les questions de crise climatique, les questions de transition démographique, de compétitivité, d'innovation, ce sont nos écosystèmes, il faut les garder parce qu'une école, de manière spécifique l'ESSEC, doit répondre à des besoins de la société. Donc on a analysé ces écosystèmes. Notre secteur de l'enseignement supérieur, il est en profonde transformation. Ce n'est plus un système fixe dans un contexte qui bouge, il est lui-même le système de l'enseignement supérieur, recherche, innovation, en transition. Donc, il y a une restructuration. Il y a une évolution fulgurante de la demande, la manière dont les étudiants, les participants arrivent avec des nouveaux besoins, des nouvelles aspirations, des nouvelles tendances. C'est quand même une évolution fulgurante.
Des formations plus courtes, plus tôt. C'est quoi
alors,
la demande ?
Des formations transdisciplinaires, c'est un mot essentiel pour notre stratégie, qui a l'intention de faire de l'ESSEC leader dans le monde de la future fit business education. Donc une business education très orientée vers le futur et donc être très orientée vers le futur et prête pour le futur en dépit de l'obsolescence accrue, accélérée des connaissances, des savoirs que nous voyons bien exister dans notre secteur. Être très pertinente, toujours orientée vers le futur, en dépit du fait qu'on prépare pour des métiers qui n'existent pas encore, des métiers qui évoluent très profondément. Donc la transdisciplinarité au cœur de ce future fit.
Mais alors quels sont les quelques points clés de ce plan.
Très bien. Alors, on a 4 ambitions stratégiques. La première, c'est éducation transformatrice, donc transformatrice, transdisciplinaire, personnalisée. Deuxième ambition, c'est le leadership multiculturel, en s'appuyant aussi sur nos campus à l'étranger, notamment ESSEC Asie-Pacifique et ESSEC Afrique, mais aussi avec toutes les collaborations, les partenariats académiques et d'entreprises qu'on a à l'international, et la constitution nouvelle de 2 hubs. Un hub à New York, New York City, hub ESSEC Nord-Américain, et un hub à Londres. Troisième ambition, c'est réinventer le management, toute la partie de co-création, de co-construction, avec l'ensemble des parties prenantes, de nouveaux modèles économiques, sociaux, organisationnels, managériaux, pour créer un monde qui soit plus prospère et résilient. Et la quatrième ambition, c'est un impact à grande échelle.
Quand vous dites transdisciplinarité, ça suppose d'aller voir vers d'autres domaines que le business directement. C'est quelque chose que vous comptez faire seul, développer en interne, ou alors au travers d'alliances, voire plus loin, de fusions, de joint ventures ?
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la transdisciplinarité ? Parce qu'on sait que dans le monde de l'enseignement supérieur, on est dans les départements académiques très disciplinaires, ça veut dire on avance dans la recherche, la science avance, et heureusement, et donc on est très spécialisé, mais du coup on est très profond sur un sujet. Donc je trouve que les enjeux sociétaux d'aujourd'hui demandent une vision plus large, donc il faut être tant très profond, très spécialisé, en même temps avoir une vision large. Mais ça, on pourrait dire, on le fait déjà avec la multidisciplinarité, avec l'interdisciplinarité. Quelle est la proposition de valeur de la transdisciplinarité ? C'est vraiment une synergie accrue entre les disciplines, mais aussi avec la participation d'acteurs non académiques, pour avoir une pertinence, un impact très fort dans la réalité. Bien évidemment, tout en restant business school, c'est de la même manière quand on parle d'intelligence artificielle, on ne devient pas une école d'ingénierie, mais on reste une business school. Dans le plan stratégique, on va ouvrir un centre de géopolitique pour les affaires. On ne se transforme pas dans une école de public affaires sans sciences politiques, on reste une école de management. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'on va accroître, bien évidemment, intensifier, amplifier les liens avec d'autres institutions académiques, dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines, que ce soit en France ou à l'international.
Et cette intensification, elle est au travers de partenariats ou de rapprochements plus importants ?
Alors, du point de vue transdisciplinaire, c'est par rapport à des doubles diplômes, donc plus importants. On vient d'annoncer un avec l'Institut catholique de Paris entre management, philosophie et éthique.
Alors, peut-être que je précise plus important, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des rachats ?
Alors ça, c'est un autre sujet, parce que je crois que justement, quand on parle de transdisciplinarité et aussi quand on regarde la taille des business schools en France par rapport à d'autres concurrents à l'international, je crois que ces écoles vont tôt ou tard avoir une problématique de taille. Ce n'est pas une question de nombre d'étudiants, mais c'est une question de chiffre d'affaires. C'est une question qui n'est pas une question de puissance financière, mais c'est une question d'avoir des capacités de développement stratégique importantes. Maintenant, dans le passé, il y a eu des limites de développement qui étaient les frais de scolarité. Ensuite, c'était les effectifs. Ensuite, c'était la diversification de portefeuille. Je crois qu'à terme, la question du joint venture, sous la forme qu'il faudra définir, entre ces écoles, avec d'autres acteurs, etc., se posera.
Est-ce que l'Instituto di Impresa, IE, est peut-être un modèle pour vous, pour 2030?
L'Instituto di Impresa, c'est un des modèles. Ce que je trouve, c'est l'ESSEC est une association loi 1901 à but non lucratif. Ça me semble qu'il faut rester une association à but non lucratif. Ça me semble un très, très bon modèle pour l'excellence académique, pour les investissements à long terme dans les murs, dans le capital humain, dans la recherche, dans notre âme d'intérêt général qu'une association à but non lucratif défend.
Parlons un peu de chiffres. J'ai lu que vous faisiez 179 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait déjà une belle entreprise moyenne pour la France. Alors malheureusement, je ne sais pas si c'est le caractère non lucratif, mais c'est qu'on n'a pas accès à vos chiffres, donc vous ne les déposez pas.
Elles sont publiques dans le journal officiel.
Dans le journal officiel.
Oui, donc, vous le trouvez.
Voilà. Et donc, est-ce que vous gagnez votre vie? Est-ce que vous équilibrez?
Alors, justement, c'est très lié à ce que je disais, le fait que l'ESSEC soit une association loi 1900 à but non lucratif, ça ne veut pas dire à but de perte non plus, c'est très important. Et une association doit assurer sa pérennité, donc constitution des fonds propres, à un moment où, il y a quelques années, vous savez, il n'y a plus de subventions publiques. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, la dimension financière n'est pas une finalité en soi pour l'association, mais pour assurer tous les investissements que nous devons avoir dans le développement du corps professoral, du capital humain. Nous venons de terminer un investissement à Cergy pour la rénovation du campus de 65 millions d'euros. L'expérience 5 étoiles, qui est aussi au cœur de la nouvelle stratégie pour les étudiants, ça demande des moyens. Donc, comment on arrive à enrichir les moyens, accroître nos moyens pour être à la hauteur de nos ambitions? Donc, par rapport au chiffre que vous mentionnez, qui fait référence, il est correct, le chiffre que vous mentionnez, à l'année académique 23-24, il y a eu aussi un équilibre, une partie excédentaire qui permet de reconstituer les fonds propres de l'école, mais aussi d'investir sur tous les axes stratégiques. Parce que la beauté, c'est que dès qu'il y a un surplus dans une association, on le réinvestit sur nous-mêmes. Il n'y a pas de dividendes partagés, il n'y a pas d'éventuelle vente de l'école dans quelques années, etc.
Ça, c'est et dans ce cas de l'apprentissage et le financement de l'apprentissage, on sait que l'ESSEC a été pionnière sur le sujet. Ces évolutions, est-ce que c'est une crainte pour vous, pour le financement de l'école à l'avenir?
En général, je crois que c'est vrai, l'ESSEC était pionnière. C'est la première business school en France à la lancer il y a 30 ans. 31 ans maintenant, et nous avons aujourd'hui environ 1100 apprentis. Ce n'est pas une question de modèle économique pour l'école, parce que c'est un sujet neutre du point de vue économique. Les craintes sont que je trouve que trop souvent, la question de l'apprentissage est abordée par le prisme financier. L'apprentissage est beaucoup plus que le financement des études pour certains étudiants. C'est le rapprochement très fort entre les écoles, les étudiants et le monde professionnel. C'est aussi un levier d'ouverture sociale. Et c'est très important. Et on voit très bien que malgré les baisses, que ce soit pour les coûts contrats, que ce soit pour les primes à l'embauche, etc., les entreprises, compte tenu de la qualité des étudiants, de la qualité de ce modèle, en termes de lien d'apprentissage, du code de travail dans l'entreprise, etc., pour les étudiants, apprécient beaucoup le modèle et donc suivent avec ce qu'on appelle le reste à charge.
Mais est-ce que vous avez l'idée de combien ça représente, vous, dans votre budget, ce qui vient des subventions pour l'apprentissage? Et comment vous allez faire, puisque le gouvernement cherche des économies partout, donc on sait que ça va baisser. Oui. Comment vous allez faire pour compenser?
Oui, alors il y a une partie, justement, c'est le reste à charge des entreprises. Et donc, le reste à charge des entreprises qui suivent au moment où le coût contrat baisse, donc le reste à charge devient plus important. Maintenant, je trouve qu'il y a d'autres questions à se poser par rapport à l'apprentissage, par rapport au financement de l'apprentissage, parce que le risque du modèle actuel est que les grosses entreprises vont bénéficier et les petites et moyennes entreprises, qui quand même représentent une partie extrêmement importante de l'économie française et d'ailleurs de l'économie italienne également, avec les districts industriels, etc. Donc ce sont des entreprises qui, me semble, devraient nous être très chères, mais il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par rapport à l'apprentissage qui risquent de favoriser, de laisser de côté un petit peu
les grandes vont continuer à pouvoir avoir des apprentis, les petites ne pourront plus, c'est ça que vous voulez dire?
Voilà, c'est le risque que je vois, justement, si le reste à charge devient trop important.
Alors, Vincenzo, il y a une question qui est un peu un serpent de mer dans le milieu, qui a trait à votre statut, donc associatif, avec de multiples parties prenantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une partie prenante qui est importante, c'est la CCI de Paris, Île-de-France. Et ce serpent de mer, c'est la vente, ou en tout cas le désengagement de la CCI, de l'ESSEC, pour se concentrer un jour ou l'autre sur HEC et ou le SCP. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit souvent remonter dans la presse. Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît crédible à moyen ou même à long terme?
Ce n'est pas un sujet que je vois remonter dans mes instances de gouvernance, c'est important de vous le partager. Et je crois que la France, d'abord, globalement, à la... C'est ça qui m'a attiré en France, d'ailleurs. Il y a 18 ans, désormais, la France devrait se réjouir d'avoir autant d'écoles de grand niveau et aussi qui sont différentes les unes des autres. Donc, si vous parlez là des écoles affiliées à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, il me semble que les trois écoles, en étant toutes les trois excellentes, du point de vue de la pédagogie, de la recherche, de la créativité, ont des ADN différents, des manières d'aller à l'international qui sont différentes, etc. Donc, il y a une différenciation entre les écoles qui, à mon avis, donne une raison d'être, d'exister à chacune de ces écoles.
Donc, vous pensez que la CCI va rester actionnaire, partie prenante des trois encore pendant longtemps?
Je crois qu'il y aurait tout l'intérêt à poursuivre comme ça, tout à fait.
L'augmentation de votre offre de programme, qui a été assez importante, je crois, ces dernières années, vous avez, par exemple, sur ce segment-là, 4 bachelors aujourd'hui. 4 bachelors. Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas un risque de dilution de la valeur de la marque ESSEC, puisque, de fait, de plus en plus de diplômés chaque année peuvent s'en prévaloir, mécaniquement? D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la part de vos revenus qui viennent du post-bac, de l'offre post-bac en 2024, mais ça pourrait être intéressant.
Alors, je ne crois pas qu'il y ait un risque de dilution. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir toujours au pourquoi on a une diversification des programmes. L'ESSEC a un objectif d'être pertinent vis-à-vis de la société. Donc, il y a un vrai besoin d'étudiants d'organisation de société, avoir tant des étudiants qui sortent d'un bachelor que des étudiants qui sortent d'un master in management. Et c'est vrai, je trouve qu'en France, il y a peut-être trop d'attention dans les études au bac plus 5 et il y a moins de perception sous des programmes qui sortent de bac plus 3, bac plus 4. Je crois que c'est une erreur parce qu'il y a une vraie différence. Pas tous les programmes s'appliquent à tous les étudiants. Ça dépend de leurs aspirations, de leur profil, de leurs envies, etc.
Mais en termes de valeur de marque?
Et alors, en termes de valeur de marque, pour vous partager quelques chiffres, on a 4 bachelors. D'ailleurs, il y en a un qui est généraliste. Il y en a 3 qui sont très spécialisés, qui répondent à de vrais besoins, je dirais pas de niche, mais spécialisés. On a le bachelor ACT sur les transitions qu'on fait avec CY en 3 ans. On a le bachelor EDAM sur l'intelligence artificielle, l'analyse des données, la science de management qu'on fait avec Central Spelec. Et on a le bachelor, le dernier né, qui répond à un vrai besoin, qui est celui des sportifs de haut niveau, le bachelor REPTA, qu'on fait avec Sciences Po et Central Spelec et l'INSEP, qui a un vrai objectif, justement, d'adresser une population spécifique. Pour vous partager deux chiffres et terminer sur cette question, c'est aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'étudiants à l'ESSEC, le poids, en réalité, de grandes écoles et master in management, on est aux alentours de 47%, vous voyez.
En termes d'effectifs ou
voilà,
de revenus?
Voilà, tout
d'effectifs.
À fait. Enfin, d'effectifs, les revenus sont 26%. Et si vous prenez 26% au niveau de la grande école, oui, au niveau du bachelor, on est aux alentours de 20%. Donc, ça montre un petit peu comment le modèle économique de l'ESSEC est un modèle économique très diversifié qui adresse des populations différentes. Et d'ailleurs, quand on regarde le modèle international, vous prenez des écoles que vous avez mentionnées, beaucoup d'entreprises et d'autres, ont beaucoup construit leur force de marque à l'international sur la base des bachelors et des MBA. Donc, ce n'est pas une question d'avoir un seul programme qui tire l'ensemble d'une institution, mais c'est comment on approche différents marchés pour faire en sorte que la marque soit uniformément forte sur différents marchés.
Vous avez annoncé l'année dernière la possibilité de suivre le master du programme Grande École à 9 ans au lieu de 2.
Tout à fait.
Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un signal un petit peu mauvais à envoyer au marché? C'est-à-dire ce qu'on doit normalement faire en 2 ans, en fait, on peut le faire en 9 ans.
Si on respecte les critères de diplomation, c'est exactement les mêmes. C'est le one-year track, donc ce n'est pas un programme séparé de la Grande École, mais c'est un track, en profitant de la flexibilité de l'ESSEC, on a mis en place un track d'un an, justement. Et d'ailleurs, quand vous regardez d'autres institutions, par exemple INSEAD, ils ont créé un Master in Management en un an, qui d'ailleurs vient aussi d'être classé dans le Financial Times. Et donc, ça montre que c'est une tendance. Il y a d'autres écoles en Angleterre et dans d'autres pays qui travaillent sur ce programme en un an, qui encore une fois, c'est important de rappeler, les étudiants chez nous doivent respecter exactement les mêmes critères de diplomation. Donc, quand ils arrivent, ça veut dire qu'ils ont déjà de l'expérience professionnelle, de l'expérience à l'international, qui leur permettent, par leur qualité académique et leur expérience préalable à arriver à l'école, de respecter tous les critères sur un an.
On va vous demander de changer un instant de casquette pour en prendre une autre, qui est celle de président de la conférence des directeurs d'écoles françaises de management, la CDEFM, pour nous parler un peu du secteur et notamment des trajectoires des écoles en ce moment en général. On voit que certaines deviennent ou vont devenir prochainement privées. que d'autres, on le voit dans les dépêches de l'ERF, normalement, ont des problèmes financiers relativement lourds, puisqu'on parle de pertes en millions. Pour vous, c'est inéluctable, ce mouvement de privatisation. Vous nous avez indiqué au départ votre attachement au statut non lucratif, mais force est de constater que ça ne va pas dans ce sens-là au niveau du secteur. Donc, quelle est, en tant que présidente de cette conférence, quel est votre sentiment sur ce sujet?
Oui. En 2019, j'avais fait une étude avec une présentation à l'École de Paris de Management, justement sur la question que les business schools françaises étaient un petit peu à la croisée des chemins. Et justement, quand on regarde les modèles à l'international, on voit bien le modèle public, ensuite on a le modèle privé lucratif, privé non lucratif, et si on se concentre sur la différence des deux, je ne dirais pas que c'est ça. Il faut prendre le sujet à partir du bon angle d'attaque. C'est pas parce que le lucratif ou non lucratif, c'est un moyen, c'est un dispositif, mais c'est vraiment pour faire quoi. Et quand on regarde la raison d'être, dans le lucratif, on a une raison d'être qui est beaucoup plus une raison d'être, une logique entreprise. Dans le lucratif, on a une logique plus guilde et des investissements extrêmement importants, que ce soit dans les services étudiants, dans des formations généralistes. Parce que quand on regarde à l'international, on voit bien que le lucratif a bien évidemment toute sa place pour exister, mais avec des caractéristiques spécifiques qui sont des formations plus spécialistes, avec une approche qui est plus exclusivement, si j'ose dire, professionnalisante, avec une sélection moindre, etc. Ce n'est pas moins bien ou meilleur, mais c'est avec une autre raison d'être.
C'est ce que vous dites à vos collègues de la CDEFM qui sont...
Moi je dis, alors l'ESSEC, quand je... Après, chaque école, bien évidemment, a ses volontés, ses envies, ses opportunités, ses logiques, et voilà, bien évidemment, chacun avance à sa manière, mais... Quand je suis arrivé à la direction générale de l'ESSEC au début 2018, il y avait l'annonce justement de la disparition des fonds publics d'exploitation. L'ESSEC, il y avait voilà, des fonds propres extrêmement limités, des questions de trésorerie, des questions de résultats d'exploitation à la fin d'année, etc., etc. Mais je trouvais que le fait de faire disparaître les subventions, c'était une manière pour une école de prendre son destin en main. Et je trouve qu'il y a une forme de responsabilité en salaire extrêmement importante. Ça peut se faire par la diversification du modèle économique, ça peut se faire par une culture économique de la dimension financière qui soit vraiment partagée au sein de l'école, et ça peut se faire aussi en étant capable d'aller chercher des financements, par exemple, sur la dimension publique. Il ne s'agit pas d'aller chercher des subventions, mais il s'agit d'avoir des projets attractives. Je vois par exemple par rapport à notre campus à Cergy, sur un projet de 65 millions d'euros, il y a un tiers qui vient de la région Île-de-France, de la communauté d'agglomération Cergy-Pontoise et du conseil départemental du Val-d'Oise. Ça veut dire voilà, prendre en main son destin avec des projets qui soient attractifs et qui puissent permettre de diversifier son modèle économique.
Ça passe vite, Vincenzo. On arrive bientôt à la fin du podcast, donc il est temps de vous poser la question traditionnelle de fin du grand oral. Est-ce que vous avez préparé un petit conseil de lecture pour nos auditeurs?
Oui, j'en ai deux rapidement. En premier, c'est un livre qui s'appelle « Le jeu intérieur du tennis ». C'est mon hobby principal, c'est le jeu de tennis. C'est comment changer son mental pour atteindre l'excellence de Timothy Galloway. Et l'idée, c'est intéressant parce que bon, c'est le mental. Donc, comment atteindre l'excellence? Normalement, quand on est sur le terrain du tennis, on imagine qu'on a un match face à un adversaire. Oui, c'est vrai, mais on a aussi un match face à nous-mêmes. Et donc, comment on arrive à aligner la personne qui est sur le terrain et sa personnalité, parce que parfois on voit les joueurs de tennis qui crient, qui parlent, comme s'ils parlaient eux-mêmes. Non, ils parlent à l'autre soi. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand on aligne, c'est là qu'on devient champion, on devient excellent.
C'est un livre de coaching, alors.
Et donc, c'est un livre qui, à mon avis, s'applique dans tous les domaines. Et donc, c'est passionnant et c'est très bien. Et l'autre livre, je reviens à mes origines italiennes, la baie de Naples Capri, ça s'appelle « Le mystère napolitain » de Ermanno Rea. C'est intéressant parce que c'est l'histoire d'une femme passionnante, journaliste militante, dans les années 50, prise dans la tourmente de la guerre froide. Et on voit bien la beauté de la ville de Naples, de ses spécificités, aussi la dureté de cette ville. Mais on comprend bien comment cette ville a fasciné les hommes depuis plus de 2000 ans. Donc j'espère, je rends aussi service à la région d'où je viens, qui est vraiment magnifique.
On aurait été déçus si vous ne nous aviez pas donné un conseil de lecture italien, cher Vincenzo. Eh bien, merci beaucoup d'être passé à ce studio module aujourd'hui. Merci aussi à vous, Jérôme Cabi. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien.